Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick Baudouin avec qui nous allons parler des impacts de la révolution numérique sur la communication des entreprises, mais aussi de leadership. Patrick Baudouin a connu une carrière impressionnante dans la publicité, en Belgique puis au Canada. Il a ensuite pris la direction générale de Radio-Canada, dont il pilotera le virage numérique au début des années 2010. Et en 2016, il publie « Le long parcours d'une grande gueule », qui interroge les questions de leadership à travers sa propre expérience. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, qu'est-ce qui a changé avec le numérique dans le rapport entre les marques et les consommateurs ?
En fait, tout a changé. Tout a changé parce que la relation entre l'entreprise et ses clients ou entre les marques et les consommateurs, c'est une relation qui s'est construite au 19e siècle dans un rapport très vertical, dans un rapport de force. L'entreprise avait un savoir-faire ou un savoir, tout cas, et le consommateur allait l'acheter, mais quelque part, il n'avait pas de capacité d'interpellation de l'entreprise et encore moins d'interpellation des marques. Donc, quelque part, les marques avaient le pouvoir sur les consommateurs, à tout point de vue, pouvaient leur faire avaler n'importe quelle information. Je prends encore comme exemple que l'industrie du tabac, en 1920, arrive à se faire passer pour un aliment au Congrès des États-Unis avec une loi. Et il faudra à peu près 50 ans pour que le consommateur apprenne qu'on le manipule au niveau de l'information. Donc, quelque part, la relation était très verticale et totalement dans les mains des marques. Que fait le numérique ? Mais en fait, il inverse complètement le rapport de force et fait qu'aujourd'hui, le consommateur, le client, peut interpeller l'entreprise, peut interpeller les marques, les contester, s'organiser, les boycotter, mais surtout partager de l'information par rapport à ces marques et donc être une sorte, entre guillemets, de contre-pouvoir dans cette nouvelle relation.
Oui, ça c'est assez clair. Mais et comment font les marques là concrètement pour s'organiser ? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour répondre à tout ça ? Parce que le rapport change, les nouvelles interactions avec le public sont très présente.
Tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les marques ne vont pas à la même vitesse dans cette révolution, ne comprennent pas nécessairement toutes à la même vitesse ce qui se passe. Il y en a quelques-unes qui sont encore très, je dirais, très braquées, restent sur leur piédestal de pouvoir et s'offusquent de ces contestations, de ces nouveaux rapports de force. Et puis d'autres ont compris qu'il fallait basculer de la communication vers ce que j'appelle la conversation. La communication, c'est à sens unique, pratiquement. En tout cas, dans le monde du marketing, c'était ça. J'utilise un mass média et je vous impose un contenu. La conversation, c'est je crée un espace dans lequel on va se parler. Je vais vous écouter. Je vais tenir compte de ce que vous faites et je vais être capable, à la sortie, d'intégrer quelque part ce nouveau mantra de la relation. Un des exemples totalement récents, c'est ce qui s'est passé pour les soupes Liebig qui se sont fait démolir sur Internet, entre autres sur Twitter. Qu'a fait Liebig ? Ben, ils ont compris que là, il fallait qu'ils réagissent et pas simplement faire de la com. Eh bien, ils ont revu leur recette complètement. Et à tous les gens qui ont envoyé des tweets qui étaient assez incendiaires contre la marque Liebig, ben, ces gens-là ont reçu un échantillon des nouvelles soupes Liebig et dedans, il y avait un sachet de pâte avec les lettres du tweet qui avait attaqué Liebig. Donc, quelque part, c'était « eat ton tweet », donc « mange ton tweet ». Liebig a donc non seulement changé son produit, mais est revenu auprès du consommateur avec une proposition nouvelle et aussi avec un beau clin d'œil. Donc là, ça a beaucoup changé, évidemment.
Là, on voit ton ADN de publicitaire parce qu'à la fois, il y a de la conversation dans ce que tu nous dis, mais c'est une sacrée action de communication aussi.
Les deux. Mais c'est-à-dire, la question est tout à fait pertinente, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui faire que de la com. Il faut faire des gestes.
Et alors, évidemment, on entend conversation, on pense tout de suite aux réseaux sociaux. Tu parles de Twitter. La place des réseaux sociaux dans la vie des marques et de leur communication aujourd'hui ?
Elle est monumentale. D'ailleurs, on le voit, ne fût-ce qu'en termes financiers, en termes d'investissement. Aujourd'hui, les investissements publicitaires basculent totalement sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et donc, le réseau social, je ne dirais pas que Facebook, en 2020, est un réseau social encore de conversation. C'est devenu presque un mass-média. Mais la majorité des réseaux sociaux, c'est quand même encore de la conversation. Et c'est là où on voit que les entreprises peuvent bien présenter leurs produits, leurs services, etc. Mais si c'est simplement pour balancer de la pub, ça ne marche pas trop. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir pas mal d'études qui montrent qu'en fait, la pub, je dirais, classique sur les réseaux sociaux n'est pas si efficace que ça. Les consommateurs aujourd'hui s'attendent à plus que de la pub de la part des marques.
Mais alors, là, j'ai l'impression, tel que tu me le décris, qu'on bascule dans un monde où tout le monde devient son propre média. C'est-à-dire le consommateur, il est son propre média, la marque, c'est son propre média, les médias, ils font leur boulot. Et comment on vit dans un monde de médias?
De fait, et c'est d'ailleurs un des points sur lequel j'insiste beaucoup, je pense que en 2020, nous sommes tous des médias. Vous, moi, nous sommes déjà des médias puisque nous avons je ne sais combien de centaines d'amis sur Facebook ou sur LinkedIn, peu importe. Et chaque fois que nous postons un contenu, nous fonctionnons comme un média. La seule petite différence entre le média d'hier et aujourd'hui sur le réseau social, c'est que des gens peuvent nous interpeller, nous endosser, nous contester. Donc ça, c'est toute cette dynamique virale qui s'ajoute. Mais de fait, aujourd'hui, nous sommes tous médias. Ça veut dire aussi que pour l'entreprise, être un média, ce n'est pas simplement faire de la publicité, c'est de créer et partager des contenus. Et des contenus, c'est plus vaste que simplement de la promotion d'offres de produits ou de services. Et c'est en cela que l'entreprise doit changer un petit peu son fusil d'épaule et comprendre que créer de la conversation, ben, il faut avoir de la conversation pour créer de la conversation. Et donc, on n'est plus dans ce qu'on appelle la création de messages. Et j'ironise souvent en disant, on a matraqué du pain, du vin, du boursin pendant 50 ans sur tous les masses médias. Et puis, ça nous est rentré dans la tronche. Hein. On peut dire que ça s'est fixé. Aujourd'hui, je ne pourrais pas créer une marque en simplement répétant un message. Il va falloir que j'écrive et que je raconte une histoire. C'est beaucoup plus vaste.
Alors justement, tu parles de raconter une histoire. Il y a un anglicisme là dont on entend de plus en plus parler, le fameux storytelling. On parle de marques qui justement racontent leur histoire et une histoire à leurs consommateurs. Tu peux nous donner ton avis là-dessus?
Mais moi, c'est une des pierres angulaires sur lesquelles je travaille maintenant depuis les années 2004-2005 dans le métier de la communication et des stratégies de marque. C'est que de fait, le storytelling remplace ce qu'on a appelé le messaging pendant à peu près 150 ans. C'est-à-dire un message aujourd'hui ne suffit plus, il faut raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est être capable d'avoir une relation avec le consommateur multifacette. Alors multifacette, bien, c'est avoir de l'émotionnel bien sûr, du rationnel bien sûr, mais peut-être aussi du sociétal, du ludique, du design. C'est plein de facettes différentes qui fait qu'à un moment donné, ma marque n'est pas simplement un impact d'un produit et d'un service, c'est un passé, une vision d'avenir. Et autour de cette dynamique-là dans le temps, bien, c'est être capable d'étoffer et, je dirais, de nourrir quelque part la compréhension que le consommateur peut avoir de la marque. Ça veut dire que la marque doit accepter de se détacher, je ne dirais pas ponctuellement, mais se détacher entre autres de sa relation strictement commerciale avec les clients ou les consommateurs. Elle doit aussi avoir une relation au sens contenu du terme, et ça, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vague aussi. Parfois, d'ailleurs, les marques sont mal à l'aise avec ça. Elles se disent, oui, mais enfin, à quoi ça va servir que je raconte ceci ou cela? Ben, ça va juste servir à établir une relation. Je suis très vulgaire dans l'exemple que je vais vous donner, mais alors accrochez-vous. C'est que quand je veux rencontrer quelqu'un, je ne vais pas coucher tout de suite. Je vais peut-être d'abord lui payer un verre et me mettre à table et on va partager nos histoires. Eh bien, c'est juste ça. Les marques doivent comprendre aujourd'hui qu'elles ne vont pas coucher tout de suite. Ben, c'est ça.
Même si elles sont sur Tinder.
Oh, sur Tinder, je ne me prononcerai
pas. Pour l'instant, il n'y a pas encore de marketing de marque.
Oh, bah, il y en a qui doivent traîner. Je ne fréquente pas le réseau, mais je suis certain qu'il doit y en avoir, oui.
Et, alors, le storytelling, et en même, donc il y a un côté raconter une histoire. Quand on entend ça, on imagine édulcorer une histoire. Et en même temps, tout ce que j'entends de ton propos, c'est que les marques, elles doivent être authentiques, sincères. On sait qu'aujourd'hui, voilà, impossible d'aller sur les réseaux, impossible d'avoir une communication profonde en contenu. Si on n'est pas authentique et sincère, on ne peut pas s'acheter une légitimité. Non. Comment dealent les marques aujourd'hui avec ça?
Alors, ça, c'est sûr que je dirais que la situation n'est pas claire pour l'instant. Là, on se parle aujourd'hui sur cette dynamique de transparence et d'authenticité. Je dirais que mon expérience, ma connaissance de l'évolution de la communication et le marketing, je l'ai enseigné presque 20 ans. Ce que j'observe, c'est qu'on est dans une mutation. Toutes les marques n'ont pas encore compris que cette notion d'authenticité, de transparence, ben, devait les amener à peut-être revoir leur façon de travailler leur histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que toute marque, normalement, a une histoire. Et ce qui est vrai aussi, c'est que de plus en plus, les consommateurs vont être à l'affût des fausses histoires. Parce que le fake news, il existe. Et puis d'ailleurs, on le voit, les études en France sont assez claires. J'ai vu les chiffres 2019. La France est un des pays qui se méfie le plus des fake news, mais aussi des fake arts, donc les mauvaises pubs ou les pubs fausses. Donc, le consommateur est dans le doute. Donc, quelque part, construire son histoire demain pour les marques, ben, c'est travailler son authenticité et assumer son authenticité avec ses défauts. Parce que quelque part, je pense que le consommateur demain préfère une marque authentique avec quelques aspérités et quelques défauts qu'une marque qui triche. Et donc, c'est tout le défi de cette nouvelle transparence à assumer, mais qui va faire aussi que la relation va être plus pérenne. Si c'est le cas, je pense que les marques vont gagner.
Oui, si je comprends bien, ça revient plus à ouvrir des nouvelles facettes et les rendre intelligibles pour le grand public que à s'inventer une histoire pour faire joli, quoi.
Je crois que, de fait, s'inventer une histoire, ça va peut-être marcher quelques mois, peut-être un peu plus, mais ça ne marchera pas très, très longtemps. Et les marques qui s'inventent des histoires, ce sont des marques qui, à un moment donné, je veux dire, surtout par rapport aux nouvelles tranches d'âge des consommateurs, c'est des marques qui vont se faire planter. On est prêt à acheter un peu de fla-fla, un peu de glamour, si c'est sur des choses secondaires. Mais sur des choses essentielles comme sa propre histoire, on ne triche pas.
Alors, tout ça, c'est assez clair et on a tout de suite en tête des images d'entreprises en B2C. L'exemple que tu cites de Liebig, c'est B2C. On voit tous des marques qui communiquent à leurs clients, à leurs consommateurs finaux. Qu'en est-il pour le B2B, si je suis un industriel, si je suis une entreprise de service, un cabinet d'avocats, qu'est-ce que, par rapport à tout ça, est-ce que c'est les mêmes règles?
Ce sont les mêmes règles, et ce qui est intéressant, c'est que les Américains aujourd'hui disent que le B2B et le B2C disparaissent au profit du H2H, human to human. Ça veut dire que le client, que ce soit en B2B ou en B2C, de plus en plus, il s'attend dans sa relation avec l'entreprise, et quelle que soit l'entreprise, il s'attend à avoir une relation aussi riche qu'une relation humaine, où il y a toutes les dimensions. Il y a du rationnel, il y a de l'émotionnel, il y a de l'affectif, tout est là. Et c'est là où le numérique révolutionne littéralement les paradigmes. C'est que hier, on pouvait dire que la personne en B2B avait un comportement X et celle en B2C avait un comportement Y. Aujourd'hui, on a un moirage des comportements. Et on le voit très bien dans les codes d'usage de la communication. Je donne un exemple précis, Volvo Trucks, donc les camions Volvo, communiquent avec les mêmes codes de communication que B2C. C'est de l'émotionnel, c'est du spectaculaire, c'est de l'humour. Certains se souviendront peut-être du film de Van Damme qui fait le grand écart entre deux camions. Ben, c'est que ça fait le tour de la Terre. Je crois qu'il y avait 86 millions de vues. Il n'y a pas 86 millions d'acheteurs de semi-remorques, mais tout le monde a regardé ça. Donc, quelque part, il y a un moirage des codes, il y a un moirage des comportements. Pourquoi ? Parce que nous avons tous aujourd'hui, qu'on soit en B2B ou en B2C, le même outil, c'est-à-dire le téléphone portable. Et nos comportements sur ce téléphone, sur les plateformes numériques, est exactement le même. On ne coupe pas son cerveau en deux parce que soudain, je suis en B2B versus B2C parce que je vais sur un réseau social. Non, tout ça est totalement moiré. Et les marques, d'ailleurs, en B2B qui ont compris ça, ont de l'avance sur les autres.
Est-ce que tu peux nous donner ton dernier coup de cœur dans une entreprise qui a fait une action de communication ou qui est parfaite, selon toi, qui a embrassé ce virage numérique parfaitement en B2B?
Mais justement, français, est-ce que c'est parfait? Je ne sais pas, oui, c'est un exemple français. Est-ce que c'est un exemple parfait? Je ne sais pas, parce que je l'ai observé de l'extérieur, mais ce que j'observe, par exemple, c'est une maison extrêmement traditionnelle qui s'appelle Saint-Gobain. On ne peut pas être plus B2B que Saint-Gobain. Mais Saint-Gobain, il y a 2 ans, a changé son logo et a changé aussi, quelque part, sa marque en étant de plus en plus dans une appellation la maison Saint-Gobain. Mais ils ont compris, en fait, que s'adresser simplement à leur première cible, qui est le B2B, historiquement, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'ils parlent aussi au client final, qui est la personne qui va faire construire une maison, qui va s'intéresser à des matériaux, qui va poser des questions. Et donc, Saint-Gobain a changé son logo, qui est devenu coloré, qui est devenu beaucoup plus, je dirais, humain, sinon le fun. Sa communication, ses messages publicitaires sont devenus beaucoup plus grand public. Et ils ont créé la Maison Saint-Gobain, qui est un univers où, quelque part, la personne qui a un projet de construction peut avoir un peu de coaching de la part de Saint-Gobain sans nécessairement acheter des produits Saint-Gobain. Donc voilà une marque très, très B2B qui a compris cette mutation.
À quoi on doit s'attendre dans les années qui viennent en matière de communication d'entreprise? Est-ce qu'il y a une tendance que tu vois venir peut-être du Canada,
la grande tendance, de toute façon, et puis elle a commencé il y a déjà quelques temps, ça va être de plus en plus la personnalisation de la relation. C'est que de plus en plus, j'ai une relation individualisée. Le meilleur exemple, c'est l'enceinte connectée. L'enceinte connectée, si je l'achète à Amazon, Amazon a mon data, connaît mon data, connaît ma consommation. Donc, quand je vais parler à l'enceinte connectée, ce n'est pas un quidam qui lui parle, c'est Patrick Baudouin qui lui parle et elle va me répondre de manière de plus en plus pointue. Donc, quelque part, la tendance irréversible, ça va être la personnalisation. Donc, on quitte gentiment, à mon avis, de manière relativement importante, la relation strictement mass-média d'hier entre les marques et les consommateurs. Il y aura toujours de la communication de masse, mais ce sera une sorte de, je dirais, d'habillage macro, mais la relation, elle va être de plus en plus individualisée.
Alors Patrick, tu as une carrière couronnée de succès dans la pub, mais à un moment, tu as pris conscience que tu t'étais perdu dans l'expression de ton autorité, de ton pouvoir. Ça, c'est ce que je t'ai entendu dire sur une des vidéos. Et alors là, tu décides de faire un virage et de prendre le temps de te reconstruire. Ça prend un bon moment. Et tu as édité un livre là-dessus. Comment on prend une décision aussi franche au moment où on est au sommet de sa carrière, où on est sous le feu des projecteurs avec des caisses de trophées?
Bon, bah là, je comprends une expression qui est très bisounours en France, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce succès ne m'apportait pas grand-chose au niveau du bonheur personnel. On prend un mot énorme, là, le mot bonheur. Et je suis même tombé en dépression. L'année où j'ai ramassé le plus de prix publicitaires, le lendemain, j'étais extrêmement mal. Je me suis dit, OK, je suis en haut, et puis je fais quoi? Et c'était une première prise de conscience. Puis j'ai eu d'autres chocs dans ma carrière. Et puis, il y a une petite vingtaine d'années de cela, je me suis dit, comme chef d'entreprise, j'avais tous les trophées que je voulais, mais je n'étais pas heureux au sens humain du terme, au sens, oserais-je dire, spirituel du terme. Et là, j'ai commencé une réflexion avec la Maison des leaders au Québec, qui est un regroupement de chefs d'entreprise assez semblable à l'APM, mais qui est très centré développement personnel. Et j'ai été partie prenante d'un des premiers groupes de réflexion, dans lequel je suis resté d'ailleurs 13 ans à peu près. Et c'était 13 années d'éveil, de réflexion, qui m'ont amené à changer totalement ma façon de diriger l'entreprise. Et quelque part aussi de découvrir qu'on pouvait diriger de manière totalement différente, mais toujours de manière aussi performante, sinon efficace. Et ça, évidemment, c'est autre chose. Je veux dire, c'est un changement majeur parce que avant cette nouvelle façon de travailler, qui s'est immiscée lentement, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu un certain nombre d'étapes de prise de conscience qui ont fait que je suis arrivé vers ce nouveau type de leadership, mais de manière très incarnée. C'était pas, je ne voulais pas me donner une nouvelle posture. L'idée, c'était que justement, la posture du chef d'entreprise hier, arrogant, à paillettes, oserais-je dire, et un petit peu superficiel, ben quelque part, c'était une posture publique, mais il y avait la personne, au sens privé du terme, qui n'était pas forcément ça. Donc, je vivais en fait une sorte de schizophrénie, et tout le travail que j'ai fait avec la Maison des leaders, grâce à Rémi Tremblay, entre autres, ben, c'était de consolider une et une seule personne, et que ce chef d'entreprise, ben, il ne soit plus une posture, mais il soit juste Patrick Baudouin, avec ses valeurs, ses croyances, son authenticité, sa fragilité, etc. etc. Ça a pris du temps.
Patrick, un grand merci pour cet échange.
Merci.
L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Après ce que tu viens de nous expliquer, quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent?
Ben, pour la com, qu'on se rencontre, ce serait bien. Mais pour le leadership, c'est peut-être apprendre à lâcher prise et à être un petit peu moins sur un socle, un peu plus dans la rencontre et l'ouverture. Il y a une phrase que j'ai envie de partager ici, qui est une phrase d'Albert Jacquard, le regretté Albert Jacquard. Il disait « Il faut prendre le beau risque de la rencontre ». Je vous invite à réfléchir là-dessus.
Un grand merci.
Merci.